France Musique. Brut d'accordéon. Félicien Bru. France Musique.
Chères auditrices et auditeurs de France Musique, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 61e numéro de Brut d'accordéon. En ce premier jour de cette nouvelle année, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter tous mes vœux de santé, de réussite et de bonheur pour cette année 23. Et justement, voici l'intitulé de notre épisode du jour, l'an 23 en accordéon. J'aurais pu tenter de lire dans l'avenir pour dire ce que cette année 2023 nous réserve, à nous tous et à l'accordéon, mais je crains que mes dons de médium soient bien peu convaincants. J'ai donc choisi de vous parler de l'an 1923 et de vous raconter un peu de cette année au son de l'accordéon, un siècle plus tard. Remontons donc nos horloges et laissons-nous porter par la voix de Gaby Montbreuse qui nous raconte les Balmusettes en 1923. C'est au Balmusette, un texte signé Vincent Telly sur une musique de Pietro Codini, enregistrée en 1923, cela s'entend, par une des vedettes du musical parisien de l'époque, Gaby Montbreuse. Car oui, il y a un siècle, l'accordéon et les Balmusettes font fureur à Paris. C'est là qu'on va danser, s'amuser, séduire, s'encanailler. De la rue de Lappe aux Batignolles, les bals se comptent par dizaines. On guinche, on fume, on boit quelques verres, on fête ces années folles, ces années d'après-guerre heureuses, pleines d'espoir, de promesses, d'avenir, et le tout au son de l'accordéon. Mais 1923, c'est aussi l'année de la disparition d'un géant, celui-là même qui a pensé et construit le géant de fer qui couronne Paris. Le 27 décembre 1923, Gustave Eiffel s'éteint dans son hôtel particulier de la rue Rabelais à Paris, il a 91 ans. Ses obsèques ont lieu le 31 décembre, en présence d'une foule nombreuse venue rendre hommage à celui qui restera définitivement le fantôme hantant la tour qui porte son nom et qui porte, depuis, l'image de la France à travers le monde.
Écoutez, mes amis, l'histoire fantastique du fantôme de la tour Eiffel. Il avait arrêté l'ordre chronologique pour démonter le temps et le rendre irréel. Il était entouré de curieux personnages, vivants et morts ou comme tels, qui s'exprimaient chacun dans son propre langage pour transformer la tour en celle de Babel. Policiers, espions, satyres et clowns tristes étaient pour lui ses adjudants. Parfois il les traitait comme de grands artistes, parfois aussi, hélas, comme des cure-dents. Écoutez, mes amis, l'histoire fantastique du fantôme de la tour Eiffel. Elle désarmera, je sais, plus d'un critique, mais vous fera rêver, et c'est là l'essentiel. Aventure délirante, souvent hallucinée, en troisième, quatrième dimension. La puissance du fantôme, à présent déchaînée, détourne le soleil, tombant à l'horizon. Il était à Venise, en même temps qu'à Vienne, à Greenwich, cassant le méridien. On le croyait à Brest, à Nantes, à Saint-Étienne, alors qu'il dînait seul dans le transsibérien. La police est perdue, employait tous les masques pour le traquer sans être vu. À Pékin, déguisé en géante tarasque, à Tarascon, en Belzébuth. À vous donc, mes amis, d'éclaircir le mystère du fantôme de la Tour Eiffel. On m'a payé très cher pour me faire taire, clair de lune, je m'envole dans ton ciel.
La voix de Charles Trenet, l'accordéon du grand Gilbert Roussel et l'orchestre de Christian Rémy dans cette chanson signée Trenet, enregistrée en 1982, Le fantôme de la Tour Eiffel. 1923, c'est donc l'année de la disparition de l'immense Gustave Eiffel, mais c'est aussi l'année de quelques premières. L'une d'entre elles a d'ailleurs lieu au pied de la Tour Eiffel. Deux chapiteaux sont montés sur le Champ de Mars en octobre 1923 pour accueillir la première édition du Salon des Arts Ménagers. André-Jules Louis Breton, ancien ministre des Inventions durant la Première Guerre et homme résolument moderniste, est à l'initiative de ce salon. Il souhaite stimuler la créativité des industriels français et permettre aux femmes de rompre avec le caractère routinier des tâches ménagères qui, selon Breton, doivent être partagées dans le foyer. Tout un programme, non ? 200 exposants sont présents lors de cette première édition et son succès est retentissant. On récompense entre autres les créateurs des fours électriques, des allumoirs à gaz, de la boîte à ordures, etc. Voilà déjà les prémices de la complainte du progrès que signera près de 30 ans plus tard l'incroyable Boris Vian.
Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atome de serre et du dans l'opio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas découverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier vert et mon poêle à mazout. Mon cirque-audace, mon répasse-limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette pour faire la vinaigrette. Le ratatine ordure et les poupes fritures. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chaussavates, au canon à patates, à l'éventre de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on se traite. Elle en vit comme ça,
jusqu'à la prochaine fois.
Elle en vit comme ça,
jusqu'à la prochaine fois.
Elle en vit comme ça,
jusqu'à la
prochaine fois.
La complainte du progrès, un texte magnifique signé Boris Vian sur une musique d'Alain Coraguer, repris en 2006 par le superbe Orchestrado Fuba avec Zemmoura à l'accordéon. Mais au-delà du premier salon des arts ménagers, 1923, c'est aussi l'année de l'installation, par exemple, du premier feu rouge en France. Le 5 mai 1923, exactement, il prend place à Paris, à l'angle du boulevard de Sébastopol et du boulevard Saint-Denis. Et pour rester dans la thématique de l'automobile, figurez-vous que c'est aussi en 1923, le 26 mai exactement, que s'ouvre la première édition d'une course devenue mythique, les 24 heures du Mans. 25 ans plus tard, Gaby Guibert chantera les 24 heures du Mans sur un rythme de samba.
Depuis 10 ans, la vie du Mans n'avait plus son circuit. Car l'occupant, la guerre étant, nous avait tout détruit. Mais le Très-Haut, par sa propos, nous dira de l'ennui. C'est bien que les Mans sont pour venir au nouveau chanteur. C'est aujourd'hui les 24 heures du Mans, ce qui permet à nos as du volant de nous montrer leur ardeur et leur franc en s'affrontant sur un tour de cadran. Emploie le bacchanal, le débris de les autos, sur la route idéale, le fleuron de la CO. Mais pour gagner, il faut être endurant sur le circuit des 24 heures du Mans. Tout le monde vers la cité, affluent les amateurs de sensations et d'émotions, pour y voir les coureurs de tout pays sur le circuit défendre leurs couleurs, pendant que spectateurs observés par le chanteur sans cœur. C'est aujourd'hui les 24 heures du Mans, ce qui permet à nos hommes du volant de nous montrer leur ardeur et leur sang en s'affrontant sur un tour de cadran. Le défi de les autos sur la route idéale, le fleuron de la CO. Mais pour gagner, il faut être endurant sur le circuit des 24 heures du Mans. Pendant la nuit, sur le circuit, il n'est point de repos, car les coureurs et les danseurs font toujours prédispos pour quelques pas d'une samba, lorsque c'est la CO qui vous en fait l'honneur dans un super chanteur avec.
La samba des 24 heures du Mans, une chanson signée Dina Wackerman et Maurice Soulaudre, enregistrée en 1949 par Gaby Guibert au chant et l'orchestre de Roger Bisson.
Brut d'accordéon, Félicien Bru, France Musique.
Mais il est maintenant l'heure de nous intéresser aux personnalités qui ont vu le jour en 1923. Et la première d'entre elles va nous emporter dans un tout autre répertoire. Nous quittons la samba pour la musique d'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, le Hongrois György Ligeti. Né le 28 mai 1923, il va engendrer une œuvre considérable, marquant de manière indélébile l'histoire de la musique savante. Et sachez que les accordéonistes sont très friands de la musique de Ligeti. En voici une illustration avec l'ouverture de sa fameuse Musica Ricercata, adaptée pour un duo inattendu, mêlant l'accordéon de Viviane Chassot à la sitar de Martin Malone. Thank you. La première des 11 pièces constituant la suite Musica Ricercata de Giorgi Ligeti, composée à l'origine pour piano, mais enregistrée en 2016 par la talentueuse accordéoniste suisse Viviane Chassot, en duo avec Martin Malone à la sitar. Après la musique classique, nous avons rendez-vous avec une figure du jazz, née lui aussi en 1923, le 17 février, à Camden, dans le New Jersey. Il s'agit de l'immense clarinettiste Buddy DeFranco. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être quel est le lien entre DeFranco et l'accordéon. Eh bien figurez-vous que le grand Buddy va beaucoup jouer avec accordéon, avec un accordéoniste de jazz américain extraordinaire dont je vous ai parlé plusieurs fois, l'immense Tommy Gumina. Ils fonderont même ensemble un quartet, le quartet DeFranco Gumina, que je vous propose d'entendre à présent dans un très bel enregistrement de 1961. Runaway, porté par les immenses talents de Buddy DeFranco à la clarinette, Tommy Gumina à l'accordéon, Bill Plummer à la contrebasse et John Guérin à la batterie. C'était un enregistrement de 1961. Mais c'est à présent un duo dont je vais vous parler, et quel duo ! Ils sont nés la même année, en 1923 donc. Ils vont faire rire la France entière durant des décennies, au cinéma, à la télévision et sur les scènes des musicals. Jean-Marc Thibault et Roger Pierre. En 1961, ils chantent le piano à bretelles, plus exactement l'accordéon de grand-père, et c'est délicieux évidemment.
Quand grand-père est revenu du bagne, la famille était réunie dans sa petite maison de campagne. Le fruit de ses économies, de l'attraction du cousin Joe, il est descendu en courant, sans articuler un seul mot, sans même embrasser mes parents. Il est allé dans la soupente et d'une vieille boîte en carton, avec une joie évidente, a sorti son accordéon. L'accordéon de grand-père nous a joué les valses d'autrefois, du temps qu'on vivait pépère, à Pigalle on se foutant des lois.
La tante Agathe en grand deuil en avait la larme à l'œil, pensant au défunt mari que la guillotine un matin lui a pris.
Ma sœur qui est pensionnaire chez madame Anita à Toulon, valsait avec le notaire comme on valse dans les grands salons. Pour sûr que ce fut une belle fête, y avait du vin blanc au tonneau, comme on buvait dans les guinguettes au temps de la bande à Bonneau. Mais mon frère le cambrioleur et cousin Joe se sont battus pour une pince, monseigneur, que mon frère n'avait pas rendue. Alors mon oncle le gendarme avait voulu verbaliser, trouvant qu'on faisait du vacarme, mais grand-père les a tous calmés. L'accordéon de grand-père a rejoué les valses d'autrefois,
et mon parrain le faussaire se mit à chanter faux comme il se doit.
La tante Agathe en grand deuil a rapproché son fauteuil pour flirter avec Léon, qui est bien sympathique pour un juge d'instruction. Alors la famille entière a retrouvé cette belle union, dont on peut dire qu'elle est fière, et tout ça grâce à l'accordéon.
Et tout ça, et tout ça, et tout ça grâce à l'accordéon.
Et tout ça, et tout ça, et tout ça grâce à l'accordéon.
Les inimitables Jean-Marc Thibault et Roger Pierre, accompagnés par Géry Jérôme à l'accordéon et l'orchestre de Claude Stiremans dans L'accordéon de grand-père, une chanson enregistrée en 1961. Mais pour terminer notre émission, je me dois d'évoquer un très grand nom de notre instrument, un musicien magnifique et un compositeur très prolifique dont nous allons fêter le centenaire dans quelques jours, André Astier. Il est né le 19 janvier 1923 à Montluçon. Il va mener une carrière brillante et écrire quelques-unes des plus belles pages de la littérature de notre instrument. Les dimanches 15 et 22 janvier prochains, je lui consacrerai deux numéros consécutifs exceptionnels pour marquer le centenaire de sa naissance, mais je ne pouvais pas résister à l'envie de vous le faire entendre dès cette première émission de l'année. Je vous propose de l'écouter dans une de ses compositions, Embouteillage, enregistrée avec son orchestre en 1962.
Thank you.
Embouteillage, une pièce signée André Astier, enregistrée par son compositeur lui-même en 1962. Nous reparlerons donc du grand André Astier les 15 et 22 janvier prochains, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Mais pour le moment, nous devons nous dire au revoir, car Brut d'accordéon, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là pour cette escapade en 1923 au son de l'accordéon et espérons que 2023 soit une année pleine de joie, de rêves réalisés, de belles musiques et d'accordéon évidemment. Cette émission est en tout cas à retrouver dès à présent en podcast sur le site ou l'application Radio France. Un grand merci à l'équipe du jour, Gilles Blanchard à la réalisation, Cédric Chatelus à la technique, Nathalie Rouvillain pour la discothèque et Marie-Christine Ferdinand, notre attachée de production. La nouvelle année ne changera rien de ce côté-là. À 16h le dimanche, vous aurez toujours le plaisir de retrouver l'ami Jérémy Rousseau et sa célèbre tribune des critiques de disques. Je lui passe donc le relais pour la première fois de l'année. De mon côté, je vous souhaite à tous une excellente semaine et comme dirait Michel, vivement dimanche.
À réécouter sur francemusique.fr.